Alors merci pour cette présentation qui effectivement permet en fait de se prolonger. Enfin, les deux présentations sont vraiment intéressantes parce qu'elle offre effectivement à la fois cette mise en perspective dans l'espace, à la fois sur le continent américain, en Europe, mais aussi à travers le temps et un temps long, chose qu'on avait moins ce matin et donc qui donne un peu aussi un peu de recul. Temporelle sur à la fois ces processus qui peuvent être, comme vous l'avez dit, plus ou moins durables, plus ou moins momentanés, circonstanciels, j'ai retenu ce nom, donc qui demandent aussi, quand on en parle, de regarder quelles sont les circonstances précises, parce qu'on voit bien à la fois des points communs, mais aussi une réponse locale à une situation, je pense notamment à la question des migrants. On voit bien aussi comment localement ça peut se réinventer et répondre à, même si on voit des mouvements comme ça un peu transnationaux, il y a quand même une réinterprétation, si on peut dire, une appropriation à des contextes locaux. Donc c'est pour cette contextualisation à la fois spatiale et temporelle. Des transitions ou de, effectivement, on peut se poser la question, on a parlé de transition, mais sans les prédéfinir, donc on voit bien cela. Ce que vous abordez aussi, peut-être plus particulièrement, c'est cette question donc, qui va avec le temps hein, et le cheminement et le développement de ces jardins, c'est l'institutionnalisation. Et effectivement, alors tant dans la première présentation, ça a été bien dit, hein, ces moments charnières sont des moments en fait de législation. Hein. On voit bien que la norme là commence à s'affirmer et de manière réglementaire ou officielle. Et également, on le voit aussi à travers l'exemple américain de ces moments d'institutionnalisation. Alors pour des causes patriotiques, hein, d'identité, d'efforts de guerre, mais pas seulement, puisque dans plusieurs de ces mouvements que vous avez pu montrer, il y a cette question de valeur d'usage, valeur économique qui change, qui est mouvante et qui change aussi la configuration des jardins. Du coup, peut-être une question justement sur cette perspective comparative que vous nous offrez à travers vos différents terrains. Selon vous, selon ce que vous observez, effectivement, est-ce que... Parce qu'il y a quand même tout aujourd'hui, il y a quand même un débat qui commence à pointer. On parle beaucoup de la transition, hein, comme si c'était une voie qui allait donc se généraliser. Et puis, très concrètement, si on voit des processus, on les voit plutôt au pluriel. Et je pense que c'est ce que vous avez bien montré aussi cet après-midi. Donc, vous, dans ce regard comparatif, est-ce que. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Plutôt, on va vers la pluralisation ou vers une généralisation de l'usage des jardins, des pratiques dans les jardins en commun? C'est une question que j'adresse peut-être aux trois.
Alors, moi, je dirais qu'il y a une généralisation, non, mais ça renvoie un peu à ce que Arnaud évoquait sur qui sont ces jardiniers, d'une certaine manière. Par contre, sur le type de pratique, oui. Enfin, il y a aussi l'effet réseau. Et l'effet horizontal aussi par les réseaux sociaux et les fédérations, les associations hein, qu'on voit quand même s'internationaliser, se nationaliser, s'internationaliser en dehors des institutions là pour le coup et qui vont déboucher sur des pratiques qui sont finalement pas si différentes en tout cas même d'un pays à l'autre mais en tout cas en France. Donc moi en écoutant ce matin évoquer l'histoire enfin la façon dont fonctionnait le jardin partagé, je retrouvais tout à fait des choses qu'on voit ailleurs à Strasbourg, à Paris, pour ceux que je connais moi. Donc il y a une espèce de uniformisation, je dirais, quelque chose comme ça des pratiques mais peut-être je me trompe avec quand même des cas en tout cas sur ça, c'est sur les pratiques. Par contre, sur les motivations, la naissance des jardins, leur pérennisation aussi, là, je pense qu'il y a des parcours, des trajectoires qui sont vraiment singulières. Et je pense que c'est plus varié. Mais bon, c'est un peu à l'emporte-pièce.
Ouais, moi je pense qu'il y a encore une tension très forte. Il y a une normalisation, ça c'est sûr, à partir du moment où il y a institutionnalisation, il y a des règles, il y a notamment de fermeture, de grilles, etc. et une légitimation de la pratique qui d'ailleurs parfois se fait aux dépens d'autres pratiques citoyennes considérées comme non valides, comme le graffiti par exemple, ou dormir dans la rue. Mais par contre, puisque ce qu'on veut, c'est si on veut généraliser la pratique, il faut que les gens aient envie de le faire. Et en fait, que tout le monde n'a pas les mêmes envies, pas les mêmes attentes. Par exemple, de pas forcément, si on pense aux migrants, voilà, à cette idée de faire pousser quelque chose qui vient du pays. On voit beaucoup ça à New York dans les jardins portoricains. Et d'ailleurs, les jardins portoricains, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça a été les premiers rasés par Giuliani parce que, et là on en revient à l'histoire du désordre, de l'ordre et du désordre, parce qu'il y avait des poulaillers, des chèvres, et puis que c'était tout à brinque-ballant, qu'ils avaient tendance à dormir. Donc c'était vraiment pour lui qu'il voulait avoir une ville toute belle, toute propre, mondiale. Donc ça, pour lui, c'était vraiment la gabegie et c'était les premiers rasés parce que c'était pas voilà, dans la norme. Et après, dans chaque jardin, on voit effectivement il y a des règlements et il y a quelqu'un, la notion du jardin propre, elle n'est pas la même pour tout le monde. Et si on veut que les gens restent impliqués, il faut qu'ils aient une marge de liberté. Donc je pense qu'il y a encore une tension là-dedans. C'est-à-dire que s'il y a trop de normalisation, les gens ne s'impliqueront plus et du coup, ça ne fonctionnera plus, quoi.
J'irai un peu dans le même sens. C'est juste, moi le souci que je vois, c'est comme des réalités qui s'expérimentent depuis quelques décennies, pour les plus récentes, depuis les années 60-70, autour du jardin partagé. Quand on va sur certains sites officiels, on voit parfois un travail d'histoire qui est engagé par les promoteurs de ces nouvelles formes de jardin partagé, community garden, et parfois qui s'accompagne avec une sorte d'amalgame. Et j'ai l'impression qu'il y a un souci de légitimation pour montrer une histoire très longue. Et des fois, on trouve même l'origine, c'est l'histoire des jardins ouvriers. Or, pas du tout. Moi, je crois que c'est des histoires très différentes qui se créent. Et puis après, selon une même configuration historique, il y a effectivement une légitimité très différentielle qui a pu être conquise par ces différentes formes de jardin. Alors, certains se reconfigurent sous la pression de nouvelles normes. Mais déjà, cette idée d'une histoire linéaire où on trouve chaque fois un ancêtre, je crois que c'est une erreur. Il faut chaque fois, mais ça a été dit, revenir. Et puis peut-être, ça fait aussi un lien. Donc j'ai l'impression que oui, pluralisation. Si on va sur le terrain, on va continuer à avoir une pluralisation. Un élément de vérité, pour moi, ça reste quand même l'élément de morphologie sociale au sens, je ne pense pas forcément là aux classes sociales, mais je pense à l'espace de jardinage. Est-ce qu'on est sur des grands espaces ou des petits espaces? Ça, c'est un grand marqueur social, déjà, rien que ça. Et puis après, j'ai l'impression que si on va... Mais bon, là, c'est des fois, je revisite un peu Foucault. Si on regarde qui crée, qui diffuse, en fait, j'ai l'impression que je reviens sur les jardins ouvriers, je ne l'ai pas dit avant, le modèle du cabanon, c'est le modèle bourgeois, d'une stylisation de l'existence, de la maison de campagne. Et donc, c'est d'abord un rapport de la bourgeoisie à elle-même, bourgeoisie éclairée à elle-même, avec cette maison de campagne qu'on veut diffuser. Donc d'abord, c'est une forme de stylisation de l'existence, pour parler comme Weber, et pas forcément technique de Swell Foucault, c'est un peu la même chose, une couche sociale qui expérimente quelque chose qu'elle veut ensuite diffuser. J'ai l'impression que c'est ce qu'on trouve aussi avec les community gardens. C'est d'abord des couches éclairées, des années culturelles. Vous avez parlé de ces artistes, l'élite, voilà. Donc c'est des couches éclairées, des couches moyennes supérieures, qui sont en train d'expérimenter un nouveau rapport à elles-mêmes, par rapport peut-être, y compris à leurs parents, qui font partie d'une bourgeoisie considérée comme plus traditionnaliste ou rétrograde. Et petit à petit, ça n'empêche pas que ce qu'elles expérimentent elles-mêmes, pour elles-mêmes, ça peut être utilisé comme un instrument de sensibilisation pour d'autres couches. Et donc, le gouvernement de soi devient le gouvernement des autres. Enfin bref, pour aller vite. Mais j'ai l'impression qu'on trouve aussi des analogies du point de vue des mécanismes. Il ne faut pas voir que normalisation. Derrière la normalisation, il y a le rapport à soi. Et là, si on fait la genèse de ces... Voilà. Là, je suis très foucaldien du coup sur ça, d'abord. Voilà.
Ouais, si je peux juste rebondir rapidement sur effectivement Lise Christie, bon voilà, elle travaillait dans un cabinet d'architectes, artistes, etc. C'est pareil, j'ai pas eu le temps de le dire, mais au même moment, il y avait des jardins qui étaient créés par des migrants, par des Afro-Américains, des Latinos, qui n'avaient pas un sou. Les migrants portoricains venaient directement dans les années 70, ils venaient de la ferme à Porto Rico, et donc c'était aussi leur manière de vivre. Oui. Donc en fait, ça s'est développé un peu en même temps, et effectivement, il y a eu besoin, au moment où il a fallu les défendre, il a fallu de la solidarité. solidarité. Et c'est là aussi que ça montre des différences de pratiques et en fait de très très grandes inégalités. C'est-à-dire, on parle du jardinage urbain comme de quelques... Mais entre ceux, déjà, si on sait parler anglais ou pas, en l'occurrence, pour pouvoir se défendre. Et même aujourd'hui, il y a des travaux qui sont faits à New York entre les jardins du sud de Manhattan. Il y a un exemple où voilà, ils ont eu un don d'$1 million et une photo prise avec le futur maire de New York, etc. Et il y a d'autres jardins dans le Bronx, dans le Queens, où ils doivent péniblement... Enfin, moi, j'en ai vu où ils n'avaient pas l'eau courante, où ils doivent vendre des gâteaux tous les week-ends pour avoir 3 francs 6 sous. Donc, il y a une... Même s'il y a l'institutionnalisation, là, il y a encore une disparité et du coup, des pratiques différentes aussi parce que les moyens sont différents.
Mais c'est un discours très, très sophistiqué, atelier créatif. Imaginez tous ces slogans qui s'énoncent comme des slogans aussi. C'est extrêmement sophistiqué, c'est extrêmement élaboré. Entre la pratique qui se passe en deçà de toute forme de discours, qui n'est pas redoublée par un discours, et la pratique qui, au contraire, est l'objet d'un discours, de toute une expérimentation qui se donne à voir à travers l'écriture, des bouquins, c'est pas tout à fait la même, quelque part, c'est pas tout à fait la même pratique en termes de stratégie de légitimation dans une société qui fonctionne par l'écrit. Voilà, mais excusez-moi.
Merci. J'aimerais, si qu'on puisse prendre et qu'on... que la salle, vu des personnes qui veulent se poser des questions avant qu'on prenne la pause, donc dans quelques minutes, on va faire circuler donc les micros.